Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
L'archéologie en Syrie et en Irak.
Qui pourrait se douter, au spectacle d'aujourd'hui, que ces murs, avec plus de 5 mètres de hauteur, que les parois en étaient lissées, que les sols en étaient entièrement dallés de briques cuites au feu. Mais heureusement, les photographies prises au moment de la fouille et des découvertes permettront de se rendre compte de l'état premier de cette architecture extraordinaire.
André Parot parlait ainsi quand il revenait à Marie après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas la première fois que des orages politiques et militaires interrompent et même renversent le travail des archéologues dans la région. L'archéologie y a été souvent chanceuse. Sa détresse est maintenant à la mesure des malheurs qui y accablent les habitants. Le terrible chaos que ce site traverse aujourd'hui l'a fait entrer dans une autre époque. Depuis le 19e siècle, elle avait été une carte maîtresse des puissances européennes. Après la première guerre, Français et Anglais avaient obtenu des mandats sur le Liban, la Syrie et l'Irak. Et l'archéologie était pour eux un levain qui leur permettait de faire monter en puissance les États dont ils assuraient la gestation. Ceux-ci, parvenus à l'indépendance, ils purent devenir tatillons et nationalistes. L'archéologie, néanmoins, resta dans leur programme. Un dessin montrait récemment un subalterne survenant dans le bureau de Bachar el-Assad. « Président, Daesh a pris une ville assyrienne de 3000 ans et maintenant une cité romaine de 2000. » Et le président de répondre « Il se rapproche ». Que reste-t-il aujourd'hui, en effet, de la frontière syro-irakienne et des deux États ? Dans ce désordre, l'archéologie n'a plus de fonction. Elle devient même impie. Un des slogans de Daesh est « pérenne ». Mais la pérennité pour l'organisation, ce n'est nullement un continuum. Elle l'entend à la façon d'un groupe totalitaire du 21e siècle qui veut imposer son idéologie d'aujourd'hui pour 1000 ans.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Sophie Cluzan, bonjour.
Bonjour.
Archéologue, directrice de mission archéologie en Syrie, conservatrice du patrimoine. On va parler évidemment de ce patrimoine de cette région comme d'un patrimoine universel, tout le monde le dit. Mais pour vous, c'est une expérience personnelle, c'est bien plus qu'un engagement professionnel. Les Syriens, que vous connaissez bien, vivent, dites-vous, sans que ce soit muséifié, vivaient dans un continuum. Époque mésopotamienne, époque gréco-romaine, époque musulmane, époque chrétienne.
Oui, certainement. Ce qui caractérise, je crois, le territoire syrien en termes de patrimoine, c'est à la fois son omniprésence et son caractère, bien que relevant du passé, son caractère présent. Il est intégré à la vie des Syriens, c'est vrai, vous le dites, il est constitutif de cette vie, de cette nation. Il y a un continuum historique qui se ressent partout dans le territoire. Alors il est vrai que quand on est archéologue et que l'on a la chance de travailler notamment dans ce pays, eh bien on est vraiment, je dirais, totalement immergé dans ce passé, à la fois par les recherches que l'on y mène avec les collègues syriens de la direction des antiquités, les archéologues, nos collègues, mais aussi par le mode de vie et les gens que nous rencontrons de ci de là, sur les bords de l'Euphrate ou même dans les villes, et chez qui l'on perçoit cet attachement profond au patrimoine et à l'archéologie. Ils ont tous un membre de la famille, quel qu'il soit, proche ou un peu plus éloigné, qui a travaillé avec un de nos grands archéologues ou encore avec nous-mêmes ou voilà une collègue que l'on connaît.
Alors le sujet aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire des civilisations de la région, c'est l'histoire de l'archéologie, c'est une longue chevauchée. On va commencer par le temps des archéologues diplomates. L'espace alors était ottoman, nous sommes dans les années 1840, et voici un personnage dans cette galerie d'archéologues diplomates qui est consul de France de Louis-Philippe.
Le consul de France à Mossoul, Paul-Émile Botta, entreprend des fouilles avec l'espoir de retrouver Ninive, la grande capitale assyrienne. Botta note dans son journal « Je fais des blés avec d'autant plus d'intérêt que je dois être le premier qui ait découvert des sculptures que l'on puisse rapporter à l'époque où Ninive était florissante. » Quelques-unes des plus belles pièces de ces premières fouilles sont expédiées en France. En 1847, 5 ans seulement après leur découverte, le musée du Louvre les accueille et inaugure son département assyrien. Aussitôt connus les premiers succès de Botta, la Mésopotamie devient un champ de recherche archéologique où va se développer la rivalité franco-anglaise.
Téléfilm signé Lubchansky. Oui, la rivalité franco-anglaise, et puis on verra aussi des Allemands, des membres d'autres puissances qui font pression sur le divan. Le divan, c'est l'administration ottomane.
La porte.
La sublime.
La sublime porte. En effet, nous sommes à l'époque ottomane et on peut dire que le 19e siècle est marqué, alors bien sûr le 17e et le 18e déjà, par un certain nombre de voyageurs qui s'intéressent à l'Antiquité, notamment à l'Antiquité classique, et qui ramènent des témoignages vers l'Europe, leur pays d'origine. Mais c'est vrai qu'au 19e siècle, les voyageurs ayant en somme, d'une certaine manière, épuisé la quantité d'Antiquité classique, notamment qui était visible, eh bien la question commence à se poser de l'intérêt qu'il y aurait à fouiller les sites archéologiques et ces régions où l'on attend énormément d'avancées pour l'histoire. Alors c'est à ce moment-là que les choses effectivement se développent et que les consuls, donc vous le disiez, c'est une archéologie des débuts qui est une archéologie de diplomates, les consuls s'intéressent à la fouille archéologique. Et alors c'est à ce moment-là que les relations avec l'Empire ottoman, qui jusqu'à présent ne s'était pas vraiment intéressé à son patrimoine et à l'histoire des régions qu'il dominait, l'Empire ottoman prend conscience de l'importance de cette intrusion finalement dans leur sol des missions archéologiques et des découvertes, de l'importance aussi des découvertes puisqu'elles sont fortement appréciées, voire parfois monnayées une fois revenues en Occident.
Il y aura des transferts au Louvre et au British Museum et aussi la création d'un musée à Istanbul. Autant les années 1840 de Botta, c'était la découverte des Assyriens, Khorsabad. Dans les années 1880, on avance dans la décomposition de l'Empire ottoman, c'est la découverte des Sumériens.
Oui, alors la découverte des Sumériens, les premiers travaux de Sarzec remontent à 1877 et les premières antiquités arrivant à Paris conditionnent ou donnent l'occasion au musée du Louvre de créer le département des antiquités orientales en 1881. Alors c'est un point très important parce que non seulement effectivement ces antiquités ont révélé l'existence des Sumériens et de leur langue, une langue dont on avait compris qu'elle avait dû exister au travers de toutes les recherches philologiques qui avaient été menées autour des découvertes faites en Assyrie quelques 40 ou 50 ans avant. Donc c'était une découverte très importante et qui a suscité aussi, alors vous parliez tout à l'heure de rivalité, qui a suscité aussi la rivalité puisque là cette découverte majeure donnait au Louvre et à la France une place proéminente, n'est-ce pas, qui lui a tout de suite été enviée, et les projets américains, la France ayant du mal à assurer les missions archéologiques sur le site de Tello dans les années 80-90, les projets américains ont commencé à fleurir qui essayaient de réintégrer ce site dans
leurs
recherches.
Après la Première Guerre mondiale, nonobstant le rôle qu'y a joué l'Amérique, ce sont les Français et les Anglais qui se partagent les mandats. Les Anglais ont le mandat sur l'Irak. Alors moi, je voulais vous parler de meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie parce qu'elle accompagne Max Malouan et elle voit une mission anglaise dont le chef est un tueur notoire, dont le numéro 2 est un drogué inexpiable et dont l'épigraphiste est un chapardeur. Mais non.
Oui, non, ça, ce sont des anecdotes, enfin plus que des anecdotes, des histoires très intéressantes autour des missions archéologiques et de nos grands archéologues, effectivement, et notamment de Max Malouan, son époux, sur qui elle a aussi beaucoup écrit et qu'elle a accompagné dans ses travaux et notamment aussi dans ses travaux en Syrie sur des sites très importants que ce fouilleur a fouillé. Enfin, voilà.
Alors, il y a Woolley qui découvre Ur. Ça, c'est du côté anglais. Il n'y a plus d'Allemands, là.
Alors, les Allemands sont toujours très présents. Les Allemands étaient présents dès avant la Première Guerre mondiale, très présents dans le territoire appelé Mésopotamie, qui devient, donc, après la Première Guerre mondiale, l'Irak. Et les Allemands restent présents. Ils restent présents jusqu'à nos jours,
Hein. Mais c'est, à l'époque, il y a un personnage absolument étonnant qui travaillait déjà avant la guerre de 14 et qui revient par la bande, Max von Oppenheim, à qui on peut pas refuser, du côté du mandat français, une autorisation de fouille.
Alors oui, l'organisation des mandats dès 1919 a mis en exergue la nécessité d'organiser l'administration de l'archéologie dans les pays qui allaient être placés sous mandat en Irak et en Syrie. Et très vite, s'est posée la question de l'exclusive. La France obtenant mandat sur la Syrie, qui comprenait à l'époque aussi le territoire du Liban, allait-elle, en organisant cette recherche archéologique, allait-elle être exclusive ou bien allait-elle pouvoir accueillir des missions étrangères? Le choix a été fait que les pays accueilleraient des missions étrangères. Et donc, le baron von Oppenheim se présente et demande une concession de fouille à la France.
Et il enrichit ainsi son musée privé qui sera détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. On va entendre un Alsacien maintenant, un Français d'Alsace. C'est Rigg, le directeur. Et en Syrie, longtemps, des antiquités est Alsacien. Mais voici ici Claude Schaeffer, qui est appelé tout jeune, à 30 ans, sur le site d'Ougarit, non loin de l'attaquer sur la côte syrienne. C'est une curiosité archéologique, ce son. C'est une des premières émissions de la télé. Il s'agit de décider des chères têtes blondes à embrasser tel ou tel métier. La tête blonde choisie, elle a 10 ans, elle s'appelle Yves Boisset, et le producteur de l'émission qui interroge donc Claude Schaeffer, c'est Étienne Laloux.
Vous avez au fond des responsabilités pas seulement d'archéologue, de savant, mais aussi des responsabilités de véritable industriel, de chef de chantier.
Oui, ça, il faut mettre ce que nous appelons la main à la pâte, s'occuper des ouvriers, de les entraîner, de les faire marcher, de les faire travailler.
Quelle sorte d'ouvriers employez-vous?
Là, ce sont des Turcomans et des Arabes, qui sont d'ailleurs de bonne volonté, mais qui manquent un peu d'énergie parce que ce climat est chaud. Et alors, il y a la grande question, comme vous voyez là, le déblaiement, l'enlèvement des tonnes de terre pour arriver à ces couches profondes, qui sont un des côtés les plus difficiles à résoudre, puisqu'il ne faut pas couvrir des terrains archéologiques. Et puis, il y a l'autre côté, c'est la résistance physique, comme vous voyez là, il y a des journées pénibles, de chaleur, de poussière, qui évidemment ne sont pas toujours très agréables, mais qu'il faut accepter, puisque c'est notre métier d'explorateur et de fouilleur. Et surtout, il faut aimer l'effort.
Je ne sais pas si Yves Boisset était convaincu, visiblement non. Moi, je vois ça comme ça, un archéologue du temps du mandat, un homme de fer, un homme énergique. Mais vous dites, Sophie Cluzan, non, c'est le levain dans la pâte, c'est nous qui avons créé les musées nationaux, formé les premières générations d'archéologues autochtones, etc.
Oui, c'est vrai. L'administration de l'archéologie au moment du mandat français est une administration qui prend tout de suite en compte la nécessité de la formation. Alors je ne voudrais pas dire que tout était très vertueux en la matière et que cela a toujours été parfaitement suivi. Mais on voit dès la création de l'Institut français d'archéologie de Damas en 1921-1922, on voit qu'une des missions confiées à cet institut, eh bien, c'est d'organiser la formation des locaux. Bien entendu, bon, voilà, ça n'est pas forcément le résultat n'a pas forcément été à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre.
Les âges d'or sont toujours des âges d'or supposés, mais le public il a mordu quand même aux découvertes fabuleuses qui ont été faites pendant le mandat. Vous allez me dire qu'on en a fait beaucoup d'autres plus tard, mais vient l'interruption de la guerre là-bas au bord du fleuve, nous restions assis, éplorés, au saule du voisinage, nous avions pendu nos sitars, version jamaïcaine, The Melodians, du psaume 137.
Require from us a song.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'archéologie en Irak et en Syrie, Sophie Cluzan dirige des missions, ou dirigeait, mais tient à dire, dirige des missions archéologiques en Syrie. Dans les États indépendants qui se constituent, qui vont devenir, avec le bassisme de plus en plus nationalistes, à la fin des années 50, au début des années 1960, des musées un peu partout se constituent. Pas seulement des musées nationaux, pas seulement des musées sur les civilisations gréco-romaines ou mésopotamiennes. À Palmyre, il y a un musée Zenobi et il y a un musée islamique.
Oui, alors le développement des musées dans les pays sous mandat est une chose assez intéressante et qui...
Et là, on n'est plus sous mandat. Hein.
Oui,
je vous rappelle qu'on est passé à l'indépendance.
Bien sûr,
hein.
mais ça commence...
Vous consentez à l'indépendance.
Oui, complètement. Mais qui commence...
sous le mandat.
Sous le mandat, n'est-ce pas? Et c'est ensuite une impulsion qui est donnée à l'indépendance par les Syriens eux-mêmes. Et là, il faut le dire, bien sûr. Mais voilà, la tradition avait été prise au moment du mandat. Donc l'impulsion qui est donnée à partir de l'indépendance par les pays à la création des musées est une impulsion extrêmement puissante. Elle relève, à mon sens, d'abord d'un constat, c'est que la politique archéologique, continuant à être extrêmement dynamique dans ces nouvelles nations indépendantes, puisqu'ils ont continué et perpétué cette tradition de l'archéologie, de la recherche archéologique, eh bien, la manne des découvertes est importante. Et donc, le champ aussi des recherches s'élargit chronologiquement. Vous mentionnez l'islam, vous pourrez mentionner beaucoup d'autres périodes. Et donc, la nécessité de voir fleurir des musées qui présentent toute cette histoire est évidente. Et il y a aussi la volonté dans les États d'accompagner le développement du territoire, puisque ces territoires qui sont récents, somme toute, ont encore à se développer et, au plan de l'économie, au plan de la culture, de l'éducation. Et l'on voit par exemple en Syrie que l'axe traditionnel qui relie Alep, Damas et au sud vers Bosra ou Dera, on voit que progressivement, eh bien, le développement va vers l'est du pays, suivant l'Euphrate et jusqu'à Deir ez-Zor. Et là, donc, le développement est toujours accompagné de création de musées dans les régions.
Oui, mais l'archéologie est édification, j'ai bien compris, Sophie Cluzan, elle est aussi érosion. Je voulais vous faire entendre le témoignage d'André Parot, qui a découvert Marie en 1933. Vous connaissez ces enfants qui, tout petits, étaient déjà là.
Voilà,
qu'est-ce que c'est Marie?
Marie, c'est un site qui est sur le bord de l'Euphrate et qui est une ville qui est occupée des environs de 2900 avant notre ère jusqu'à 1760 environ. Et c'est une ville extraordinaire de Mésopotamie. Et André Parot emmenait effectivement en mission ses enfants et les deux aînés ont vécu la découverte de Marie les premières années.
Bah oui, mais dit-il, s'il revenait, on est là dans les années 60, il a commencé à revenir dans les années 50, André Parot. Bien sûr qu'il y a un beau musée à Alep, mais que de dégradations qui sont l'œuvre du temps.
Nous sommes en une époque sumérienne, c'est-à-dire une époque qui a dû rayonner vers 2200 avant Jésus-Christ. Et il est très vraisemblable, pour ne pas dire certain, que la puissance sumérienne a contrôlé la ville de Marie, dont malheureusement les pluies hivernales, l'érosion, ont mutilé l'architecture. Car n'oublions pas que ce palais a été fouillé entre 1935 et 1938, par conséquent il y a 30 ans. Qui pourrait se douter, au spectacle d'aujourd'hui, que ces murs, avec plus de 5 mètres de hauteur, que les parois en étaient lissées, que les sols en étaient entièrement dallés de briques cuites au feu. Mais heureusement, les photographies prises au moment de la fouille et des découvertes permettront de se rendre compte de l'état premier de cette architecture extraordinaire.
Alors Marie, en tant que successeur de Parot, Buterlin, je signale son article et tous les articles dont le vôtre dans le numéro de Cantara de janvier, la revue de Lima sur le sujet que nous traitons aujourd'hui. Marie est protégée. Buterlin explique que c'est un site vraiment pilote. Parce que sur le plan local, les relations avec des générations de paysans sont extraordinaires. Sur le plan national, coopération et pilotage mixte avec les Syriens. Et puis alors, c'est un exemple d'internationalisation de la recherche archéologique fabuleux, parce qu'il n'y a de modernité possible dans l'archéologie que dans la coopération internationale, la mise en commun des bases de données, etc. etc.
Oui, alors Marie est un site... C'est un site de référence, je crois, surtout pour la recherche française en Syrie et dans les régions du Moyen-Orient. C'est un site qui est fouillé donc dès 1933 et encore jusqu'à nos jours. André Parot, Jean Margueron et maintenant Pascal Buterlin. Je crois que c'est surtout en cela qu'il est exemplaire. C'est un site qui est resté français. C'est un des rares sites à être resté entièrement français.
Ah bah, c'est pas internationalisé alors.
Alors ça n'empêche pas de faire venir des membres dans la mission qui soient d'autres pays éventuellement. Mais c'est un site qui est resté français, un des rares, vous dis-je, puisque la plupart des missions sont devenues des missions syro-françaises, puisque les autorités locales ont bien sûr développé la formation en archéologie à Damas, à Alep, à l'université.
Mais quand même, il y a plus de 50 missions en Syrie avant l'arrêt 2010, et il y a 10 ou 15 nations. Il y a même des Espagnols et des Japonais.
Bien sûr, des Japonais, des Espagnols, des
Donc
Italiens.
Donc c'est plus seulement mixte, syro-français, syro...
Non, mais les sites sont attribués à un ou deux pays, si vous voulez, en général avec la Syrie. C'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est cette forme de coopération. Sur un gros site, on peut voir, par exemple, deux pays et les Syriens s'allier pour mener la recherche, pour que ce soit plus efficace. Mais certains sites restent dans les mains de l'un ou l'autre des pays. Marie, notamment, à la France. Ougarit, à la France, mais avec une grande participation syrienne. Ebla, à l'Italie.
Ah, on va parler des Italiens, ça c'est bien. À partir de 1963, ils sont à Ebla. Alors, Ebla, c'est où ?
Ebla, Tel Mardir, c'est dans la région d'Idlib, au sud d'Alep, dans la plaine syrienne.
Et voici qu'un peu après... leur installation, grand son de trompe pour des annonces très médiatiques. Nous sommes sur TF1 en 1977.
Syrie du Nord, non loin d'Alep, au milieu de la plaine Tel Mardik. Des archéologues italiens fouillent là depuis 10 ans quand, en 1974 et 1975, ils découvrent un palais royal et les archives de la ville. 16 000 tablettes rangées sur des rayonnages de bois. C'est la découverte archéologique la plus importante du siècle. Elles font surgir du passé un empire oublié, le royaume d'Ebla, dont l'apogée se situe entre 2400 et 2250 avant Jésus-Christ. Mais ce qui fait surtout l'importance de la découverte, c'est le dialecte parlé par les Eblaïtes, et d'où sont issues les deux grandes langues sémitiques actuelles, l'hébreu et l'arabe. Une langue où roi se disait Malek, en arabe Malik, en hébreu Melech. Un peuple où les gens, 1000 ans avant la formation du peuple hébreu, se nommaient Ishmaël, Daniel et même Israël. Un empire dont l'une des grandes cités s'appelait Urushalima, le premier nom de Yerushalayim, Jérusalem.
Vous avez raison de dire qu'il s'est fait des découvertes inouïes aussi dans les années d'après-guerre.
Mais oui, tout à
fait. Et en quoi celle-ci est très importante ?
Alors, Ebla est très importante parce que... alors, on pourrait revenir un petit peu sur l'histoire de la recherche archéologique et d'où est issue une forme de pensée qui maintenant est moins courante, fort heureusement, que l'on pourrait appeler le mésopotamocentrisme, si vous voulez. Dans la mesure où les pionniers ont surtout travaillé en Mésopotamie et que les découvertes extraordinaires qui ont été faites en Mésopotamie ont vraiment attiré l'attention de tous les pays sur l'importance historique de ces régions par rapport à notre propre histoire aussi, on a pris l'habitude de penser que les premières fois ou les premières apparitions se faisaient en Mésopotamie. Et en réalité, au fur et à mesure que la recherche s'est développée dans d'autres régions, et nous pouvons à ce moment-là avancer, remonter l'Euphrate et arriver jusqu'à la plaine syrienne et Tel Mardir et Ebla, eh bien on s'aperçoit qu'il n'en est rien, que l'écriture était tout aussi développée dans ces régions où l'on parlait une langue sémitique, comme l'extrait sonore que vous avez présenté le dit, et que ces régions participaient donc au même titre que la Mésopotamie, fût-elle centrale ou méridionale, à cette grande émergence de la culture historique.
On ne va pas revenir sur les problèmes que les archéologues ont pu avoir avec des États chauffés à blanc par le nationalisme, dans la construction de Babylone par Saddam Hussein. Je parle de l'Irak parce que ça aurait été plus facile pour vous de critiquer l'Irak, peut-être, Sophie Cluzan. Et puis qu'est-ce qu'il reste de ces États ? Alors pourquoi en parler encore ? Les pillages, aujourd'hui, Parce qu'il n'y a pas seulement les destructions de l'armée dite régulière syrienne à Palmyre qui trace des routes et creuse des tunnels de Daesh, bien évidemment. Il y avait eu les destructions des pillards que laissaient faire les marines américains à Bagdad en 2003. Il y a les pillages.
Oui, les pillages. Alors, les pillages sont... Voilà, sont le fait de soit de villageois locaux qui cherchent des moyens de subsistance et dans ces situations qui pourraient les emblâmer, soit sont organisés par des bandes qui, elles, savent beaucoup mieux comment écouler leurs marchandises vers l'étranger et alimenter des collections de manière souterraine.
Marie est à l'encan maintenant.
Marie...
Le toit a été balayé par un vent de sable.
Voilà, et des trous
avant même que la guerre ne s'installe dans le site et il est à l'encan maintenant.
Absolument, Marie et beaucoup d'autres sites sont pillés, sont troués. Alors je dirais que les pillages, moi ce qui retient mon attention en tant qu'archéologue, c'est pas tant la perte d'objets éventuels, et ça pourrait retenir mon attention de conservateur du patrimoine, mais c'est la perte de l'histoire, car quand vous éventrez un site archéologique, c'est une archive de l'histoire unique, qui n'a pas encore été lu et qui ne sera donc jamais lu, puisque les couches ne seront plus en place.
Puisque vous parlez de palimpseste, on en offre gratuitement à nos auditeurs Vieux Colombier lundi 8. Restitution de débats parlementaires, la restauration supprime le divorce, l'église et l'école en 1850, avec Loïc Corbory, Michel Favori, Bruno Raffaelli, Didier Sandre, le procédé d'inscription. Eh bien, vous le trouverez sur notre site, ainsi que la mention de Cantara, le numéro de la revue de l'Institut du Monde Arabe, consacré au sujet que nous avons abordé avec vous, Sophie Cluzan.